chers auditeurs, aujourd'hui, on va parler un peu histoire, hein, à la veille du 11 novembre. Date. Alors, si on la demande ça aux élèves de 8 à 14 ans, que représente le 11 novembre, je suis pas sûr qu'ils aient la bonne réponse. Mais c'est l'armistice de 1918. Donc, je reçois l'historien généalogiste Grégory Viguier, qui nous vient tout droit de Nîmes, qui a pris le bateau. Ça a un peu bougé. Grégory, comment allez-vous ?
François, bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs. Ça va très très bien et ravi de me retrouver dans la citadelle de Calvi.
Alors, on va expliquer le pourquoi de votre venue. Il y a à peu près 3-4 ans, vous avez été mandaté par la municipalité pour effectuer des recherches sur les poilus calvais. Comment ça s'est passé ? Est-ce que le maire a pris son téléphone rouge ? Vous a appelé directement. Comment s'est fait la prise de contact un petit peu?
Alors ça faisait moi déjà une dizaine d'années que je venais en touriste sur Calvi et que j'adore cette ville. Et j'avais toujours voulu travailler sur le monument aux morts. Donc j'ai envoyé une proposition, une lettre à la municipalité. Et j'ai eu quelques mois après la bonne surprise d'avoir un coup de téléphone de la mairie comme quoi ils étaient intéressés par le projet. Et puis voilà, ça s'est fait très très vite. Et après 3-4 ans de travail, me voilà devant vous et sur Calvi pour présenter le livre.
Alors ça vous êtes coutumier du fait, hein, vous le faites pour d'autres municipalités aussi, hein, c'est votre travail. 3 ans de recherche, un petit peu impacté, bien évidemment, par une pandémie mondiale, et qui vous a permis, finalement, de nous faire découvrir 12 noms d'oubliés de la Grande Guerre, des Calvais, qui ont été mobilisés, qui ont participé et sont morts, hein, lors de ce conflit. Comment on opère ? Ça, c'est la première question. La GM, on verra bien sûr qui y sont. Et est-ce que vous avez rencontré un intérêt de la part des descendants, des éventuels descendants que vous avez contactés ou pas ? Est-ce que vous avez réussi à emmagasiner de leur part des informations qui vous ont été utiles ?
Alors, le travail part toujours du monument aux morts, avec une étude du monument aux morts en lui-même, sur son histoire et sur les poilus qui sont inscrits. Après, quand je fais les recherches dans divers centres d'archives, que ce soit aux archives nationales, aux archives du monde militaire ou dans les archives municipales, pour trouver des éléments sur la biographie des poilus qui sont inscrits, c'est là où on retrouve très souvent par hasard des noms, des soldats, où on se rend compte qu'ils sont morts pour la France et qu'ils ne sont pas inscrits sur le monument aux morts. Donc à partir de là, j'établis une liste, je fais une vérification pour voir s'ils sont bien morts pour la France. Et c'est ainsi que cette fameuse liste des 12 noms a été conçue.
Alors, est-ce que, pour le coup je vais revenir sur la question, est-ce que vous avez réussi à avoir accès à des descendants de ces personnes-là? Est-ce qu'ils l'ont appris ou est-ce qu'ils vont le découvrir finalement demain?
Alors, je pense qu'il y en a qui vont le découvrir demain en lisant le livre et avec la conférence. Et il y a d'autres qui sont venus me rencontrer en mairie parce que pendant ces 4 années, j'ai fait des permanences en mairie où je rencontrais des potentiels descendants, mais aussi de la population qui était intéressée par mes recherches. Et je fais un petit clin d'œil à monsieur Francis Darry qui est venu me voir à chaque fois, qui est un descendant de poilus et qui m'a apporté énormément de documents et qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches.
Alors, on va essayer. Est-ce qu'on peut faire un petit spoil, du coup ? Est-ce qu'on peut citer, finalement, parce que peut-être qu'il y a des gens qui écoutent la radio aujourd'hui qui ne savent pas qu'un aïeul a participé à la Grande Guerre et va se retrouver sur la nouvelle plaque au Monument aux Morts demain, puisqu'il y aura l'inauguration demain, on en reparlera. Est-ce qu'on peut avoir le nom de ces 12 Calvais ?
Alors, je vais laisser la surprise justement pour demain, parce que j'ai vu que la plaque était installée et elle sera inaugurée officiellement demain, donc par monsieur le maire à 11h à l'inauguration. Donc, je vais laisser le soin et j'invite la population à venir nombreuse à cette cérémonie du centenaire du Monument aux Morts pour découvrir justement ces 12 noms.
Alors, on ne spoilera pas. Il en ressort quand même un ouvrage, donc Mémoire de poilu, aux éditions de La Fenestrelle. Alors, bien sûr, il y a un coût, 25 euros. Vous me dites si je me trompe. Ils seront disponibles dès lundi en mairie pour ceux qui ont précommandé. Et il y a une dédicace à la suite de la conférence demain à 16h. Donc ça, on va en parler un petit peu plus. Donc conférence demain, 16h, salle des fêtes de la mairie. Il y aura à peu près 3 axes sur la conférence. Les poilus calvais, le monument aux morts et le Balkan. Voilà. Ce fameux navire qui a coulé au large de Calvi. Donc, est-ce qu'on peut faire, puisque du coup les poilus calvais, ça on le découvrira demain, est-ce qu'on peut faire un petit, peut-être que les calvais qui nous écoutent, les auditeurs, ne sont pas au courant. Moi j'ai fait mes petites recherches, mais je ne suis pas historien, hein, je suis un modeste contributeur. Demain se conjugue en plus de l'armistice, les 100 ans de ce monument aux morts à Calvi. Ça fait 100 ans que la statue est là. Elle a été acheminée par bateau de Toulon.
C'est ça.
Elle a été inaugurée le 2 octobre 1922, sculptée par un certain Emmanuel Frémier. Donc c'est une statue de bronze qui porte le nom de la Victoire.
C'est ça.
Donc là, sur, ces, sur le monument aux morts, qu'est-ce que vous pouvez un peu nous apprendre ?
Alors ce monument aux morts qui a été décidé d'être construit en 1921... À cette époque, dans cette année 1921, il y a eu de très nombreuses donc, réunions publiques par M. Semerida, qui était la personne qui gérait à l'époque ce projet de monument aux morts. Et donc 1921, pendant à peu près 7 à 8 mois, il y a eu plein de négociations, savoir où il pouvait se mettre. Ça, il est rentré ce monument aux morts dans le cadre d'une restructuration urbaine pour embellir la cité. Et donc ce choix, le choix de l'emplacement était très important justement dans ce souci d'embellir et de moderniser la cité. Mais ce monument aux morts, c'est surtout une histoire d'amour. Ça a été un coup de cœur, de l'ancien maire, Adolphe Landry, envers la statue. Cette statue, la particularité, n'a pas avoir été créée spécialement pour le monument aux morts de Calvi. Elle date de 1908, où c'est une commande de l'État envers le sculpteur, M. Frémier, pour inaugurer les jardins du Carrousel à Louvre.
Oui, donc.
Mais du coup, elle n'a jamais été utilisée. Elle a été construite, elle a été réalisée, elle a été fondue, mais elle n'a jamais été posée à Paris. Donc elle s'est retrouvée dans les hangars des Beaux-Arts à Paris. Et c'est M. Landry, donc l'ancien maire de Calvi, quand il était ministre de la Culture, est tombé un jour nez à nez avec ce statut. Il l'a trouvé très très belle et il a fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir l'amener sur Calvi afin de pouvoir orner le futur monument aux morts à l'époque.
Alors Adolphe Landry, ministre de la Marine, député maire à l'époque à Calvi, l'accumulation des mandats, c'était pas un problème à l'époque.
Sénateur à la fin de sa vie.
Donc il obtient cette statue et c'est le conseil municipal qui a décidé de la place,
voilà.
Exacte où elle se trouve aujourd'hui, hein, la place de la Histe, et de son nom aussi, et qui avait confié à un architecte qui n'était pas calvais mais qui habitait Calvi. Alors son nom c'est...
Clérambault.
Voilà, Clérambault. De tout mettre en œuvre pour essayer de l'orner de la meilleure des façons. Donc là, elle n'a jamais été touchée. Comme elle a été posée en 1922, à part, bien sûr, des coups de peinture, tout ça, le monument aux morts n'a jamais été touché.
Non, non. Il a toujours été à sa place. Après, il y a eu une organisation autour. Quand le parking a été créé, ça a été surélevé et tout. Avant, c'était qu'une place, c'était de la terre battue, ça a été surélevé. Donc, il y a une réorganisation de l'espace tout autour, mais le monument aux morts a toujours trôné à sa place.
D'accord. Vous avez aussi fait des recherches sur le Balkan. Alors, en quoi elle consiste, qu'est-ce que vous avez trouvé sur... vos recherches concernant ce navire.
Alors tout d'abord, le Balkan est vraiment très lié à Calvi. C'était impossible de faire un livre sur 14-18 sur Calvi sans parler du torpillage du Balkan. Donc je m'y suis intéressé d'un peu plus près. J'ai retrouvé un ou deux descendants de poilus qui ont réussi à être rescapés du poilu, d'autres qui sont décédés, deux frères, les frères Verriran, qui sont dans le livre et en photo. Et donc je suis allé aux archives à Paris, aux archives militaires, où j'ai pu retrouver certains dossiers. Et donc alors il y a beaucoup de documents qu'on peut retrouver à Paris sur le Balkan. J'aurais pu faire un livre complet rien que sur ce torpillage, mais c'était pas le but. J'ai quand même un petit peu voulu synthétiser. Donc voilà, je résume un petit peu son départ de Marseille avec ses 500 passagers. Et ce bateau, voilà, a été poursuivi par un sous-marin allemand. Et donc, dans la baie de Calvi, a été torpillé. Il y a eu, je crois, qu'une centaine de rescapés à peu près sur les 500 membres. Quand on regarde un peu les archives, on se rend compte un petit peu avec les lettres des survivants, la tragédie que ça aurait pu être, le calvaire que ça aurait pu être. Surtout quand certains habitants de Calvi ont retrouvé des cadavres qui se sont échoués sur les plages de la ville. C'était vraiment une grande catastrophe. Ça a vraiment été un très, très grand traumatisme pour Calvi, mais pour toute la Corse. Et voilà, je trouvais que c'était indispensable d'en parler et de faire des recherches un peu plus poussées sur ce torpillage.
Alors, justement, vous êtes on verra dans le livre, il y a énormément de photos, de choses que vous avez retrouvées. Je suppose que c'est un travail énorme. Il y a des documents militaires. Il y a aussi des lettres manuscrites, tout ça. Quand on tombe là-dessus, il faut un petit peu déchiffrer, parce que bon, déjà, les écritures, il faut les relire. Comment on met tout en œuvre ? Est-ce qu'on emmagasine tout et puis on se dit, je vais trier à la fin, ou est-ce que finalement on se dit je range tout au fur et à mesure et après je dégraisse.
Dès que je trouve un document, il faut le retranscrire, il faut le trier et je sais d'avance, par avance, si je vais le mettre ou non en illustration dans le livre. Pour les descendants, il y a à peu près, j'ai dû retrouver une quinzaine de descendants sur Calvi. C'est très rare d'en trouver, mais dans toutes les communes, parce qu'il faut déjà que les poilus étaient jeunes, il faut qu'ils aient déjà eu des enfants. Donc, s'ils n'ont pas d'enfants, les branches collatérales ne savent pas forcément qu'ils ont eu un poilu qui est décédé. Donc, retrouver des documents avec les descendants, ils sont tellement rares que ceux-là, je les mets quasiment tous de suite dans le livre. Après, il faut faire un tri. Monsieur Darry m'a donné, par exemple, beaucoup de photos. Il faut faire un tri, mettre les plus pertinentes. Pour les archives, aux archives nationales, par exemple sur le Balkan, où on retrouve énormément de choses, de dossiers, de documents, je suis obligé, je prends tout en photo, je prends tout chez moi, je fais un tri, je fais un résumé, et c'est comme ça que ça permet de faire un historique. Mais c'est valable aussi bien pour les biographies des poilus que pour un historique, par exemple, du Balkan.
Alors, j'ai une question, parce que là, du coup, vous aiguisez mon intérêt. Est-ce que, quand vous allez dans ces structures-là, est-ce que finalement, il y a de la numérisation qui est faite, ou c'est encore dans des cartons, il faut fouiller soi-même. Est-ce qu'il y a de la numérisation qui est mise en place? Parce qu'on risque de le perdre, de la dégradation des documents.
Alors dans tous les centres d'archives, n'importe quel que ce soit, il y a de la numérisation, mais ça coûte très très cher. Donc comme pour tous les projets qu'il peut y avoir au niveau national, départemental ou municipal, ça a un coût. Mais il y a des budgets qui sont alloués pour numériser le plus possible, justement pour les conserver dans le temps. Mais vu la somme d'archives qu'il peut y avoir en France dans tous les domaines que ce soit, les cartons d'archives et les vieux papiers qui sentent un petit peu l'humidité ont de beaux jours devant eux.
D'accord. Ok. Donc ouais, c'est pas terminé.
Non.
Alors, Monsieur Viguier, demain, je rappelle, quand même, pour les auditeurs, la chose la plus importante. Donc, bien sûr, demain matin, on a vu, elle était enrubannée, ils ont mis un coup de propre toute la semaine, on n'arrivait pas à se garer. Elle va être toute belle, la statue, la victoire. Donc, demain, inauguration, je crois que c'est à 11h.
11h, c'est ça.
C'est à 11h, avec, bien sûr, l'inauguration de ces plaques. Avec le nom des 12 poilus oubliés. Ensuite, on va manger à la maison, on digère, on fait une petite sieste. 16h, conférence avec. Comment ça s'appelle ? Tout le travail que vous avez retranscrit, alors bien sûr en trois phases, bien sûr les poilus calvés, le monument aux morts, le Balkan. Donc là, il y en a pour à peu près combien ?
Alors, je pense 30-35 minutes à peu près.
30-35 minutes. Et ensuite, on peut, si on participe, on peut bien sûr acheter sur place.
Voilà, c'est le lancement officiel l'ouvrage. Du livre avec séance de dédicace.
Donc, séance de dédicace. Donc, je vous invite, chers auditeurs, voilà. Déjà, c'est du travail de mémoire. C'est bien. De le prendre. Ah, je fais la promo, hein, bien sûr.
Vous avez raison.
On va m'être taxé de faire la promo, mais c'est bien, c'est le devoir de mémoire. Ça permet aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants, puisque maintenant on arrive sur les arrière-petits-enfants, ben, de savoir finalement qu'est-ce qui s'est passé dans la famille et qu'il y a des gens qui ont fait des choix.
Voire même arrière-arrière, parce que moi-même je suis un arrière-petit-fils de poilu, et donc maintenant on va sur les arrière-arrière.
Voilà, moi je suis ravi de savoir que mon grand-père est dans l'ouvrage. Mon grand-père qui a été, ou alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mobilisé mineur, hein, puisqu'à l'époque c'était 21 ans, et lui est parti au front à 16 ans. Donc voilà, nos aïeux, nos ancêtres étaient des gens courageux et se levaient contre le joug d'une nation hostile, hein. Donc voilà, faut être fier de ça et ça fait partie du travail de mémoire, bien sûr. Donc tout à l'heure, je rigolais en disant que si on prenait la génération des 8-15 ans et qu'on leur demandait pourquoi il n'y a pas école le 11 novembre, on n'était pas sûr des réponses, mais quelque part, c'est pas faux.
Il y a beaucoup de vérité. Il y en a qui savent, mais d'autres ignorent quand même.
Donc Grégory, je vais vous libérer parce que là, le timing, il est serré. Direction Île-Rousse, ensuite... les obligations, peut-être le journal, tout ça. Donc les obligations que vous avez. Et on se retrouve, nous, probablement demain, pour l'inauguration des plaques sur le monument aux morts. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et on se dit à demain. Chers auditeurs, on va faire une petite coupure musicale parce que vient la spéciale Argentina avec notre... notre Argentin le plus calvé des Argentins, voilà, Lucho, qui va venir nous faire un gros plan sur la sélection argentine au vu de cette Coupe du Monde pour la spéciale catastrophe sur l'Argentine.